Once there was an explosion. A bang which gave rise to life as we know it. And then came the next explosion. An explosion that will be our last.
Et bonjour à toutes et à tous, ici l'équipe de Travel Game pour le deuxième épisode de notre podcast Parlons JV où on parle un peu des jeux qui nous font kiffer nous chez Travel Game. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un épisode consacré à Death Stranding en compagnie de trois autres rédacteurs de Travel Game. Donc dans un premier temps SV Play.
Bonjour.
Gapsama.
Et bonjour.
Et Slot.
Bonjour.
Et donc du coup on va aborder Death Stranding, mais avant ça on va vous mettre un petit morceau de son OST qui était composé par Ludwig Forssell si je ne m'abuse, et c'est parti tout de suite pour le thème bébé, le Bibi's theme. Et voilà, c'était le thème du bébé, le Bibi's theme de Death Stranding, donc composé par Ludwig Forssell. Et voilà, donc le petit moment musique est passé. Et on va tout de suite commencer à parler de Death Stranding. Au programme, donc, on va parler un petit peu, donc commencer par le gameplay, avant de faire voilà, un aparté sur tout l'aspect symbolique et communautaire du jeu. Donc déjà, les gars, on va commencer par un petit avis, un petit tour de table rapide. Qu'est-ce que vous avez pensé globalement, très rapidement, du jeu avant de commencer à parler du gameplay? SVP.
Bah écoute, je sais en l'occurrence. Death Stranding, il y a un rapport compliqué avec ce jeu, dans le sens où tu reconnais très très vite effectivement toutes les critiques et les vannes qu'il y a pu y avoir dessus sont toutes justifiées, dans le sens où effectivement le but du jeu c'est faire une livraison d'un point A à un point B et c'est tout. Mais à côté de ça, t'arrives pas à t'arrêter, t'arrives pas à ne pas y revenir et t'arrives pas à ne pas t'intéresser à, alors non pas au scénario parce que le scénario est riche comme on va en parler, mais t'y retournes pour construire ton petit bout de route, t'y retournes pour construire ton petit générateur, pour construire ton petit truc. Et pour le coup, c'est un bon jeu. Hein. De toute façon, le jeu a connu un succès commercial et critique. Il y a des éléments à débattre en tout cas. Pour le coup,
je pense qu'on va avoir du grain à moudre pendant ce podcast, en effet. Gabs, toi, un petit rapide avis.
Alors, moi, je suis quand même avant toute chose un fan quand même conditionnel de Kojima et notamment de Metal Gear, forcément. Et ouais, Death Stranding. Pour moi, il a été très subversif, excusez-moi. Et je peux comprendre pourquoi. Hein. C'est un jeu, effectivement, comme l'a dit SV Play. Voilà, il faut livrer des choses. C'est les quêtes FedEx. Kojima en a fait le cœur de son gameplay. Pour ma part, ça a matché. J'ai vraiment adoré faire toutes ces quêtes et arriver au bout de ce scénario et de l'histoire de ce Sam Porter Bridges, livreur des temps modernes dans un monde post-apocalyptique. J'ai vraiment accroché, quoi.
Ok, très bien. Avis plutôt positif, du coup. Et Slot, de ton côté?
Perso, moi aussi, j'ai bien aimé le jeu. Après, je peux comprendre qu'on n'apprécie pas forcément le jeu, surtout si on n'y a pas forcément joué, si on a juste vu des vidéos de gameplay. Je peux comprendre que ça a l'air chiant, mais c'est vrai qu'une fois que tu as la manette en main, c'est pas du tout la même chose. Il y a plein de petites choses, de petits détails dans le gameplay qui font que justement tu accroches et tu reviens au jeu comme l'ont déjà dit Père. C'est qu'il y a plein de trucs qui t'accrochent. C'est de la marche, mais il a réussi à faire en sorte que la marche soit intéressante en tant que telle, et que ça te donne vraiment une motivation à avancer dans le jeu, en plus du scénario.
Ok, voilà. Très bien. Très bien, très bien. Donc, du coup, je me permets, du coup, je vais donner aussi vite fait mon avis. Moi, là où je respecte le jeu, au-delà de ses défauts et de ses qualités, c'est que j'ai l'impression d'avoir jamais joué en fait à un jeu comme Death Stranding. Pourtant, j'ai fait pas mal de jeux, hein, on est tous passionnés. Mais non, il a vraiment réussi, ouais, comme tu disais, Axel, à faire en sorte que le jeu, tu peux vraiment l'apprécier. J'ai l'impression que quand tu as la manette dans les mains, en fait, et arriver à ce tour de force, en fait, de mettre au centre de son gameplay des quêtes FedEx, qui est un aspect du jeu vidéo pas mal critiqué et pas mal sujet à discussion et à débat depuis pas mal de temps maintenant.
C'est un truc qui est chiant, on est tous d'accord, je pense.
Voilà, exactement. Et le fait de l'avoir mis au centre de son gameplay, donc déjà, je trouve ça couillu. Après, est-ce que c'est bien ou pas, ça c'est une autre question. Mais ouais, donc c'est plutôt au-delà du fait si j'ai aimé ou pas, j'ai plutôt globalement apprécié l'expérience. Mais ouais, c'était vraiment l'impression d'avoir jamais joué à un jeu comme Death Stranding, en fait, qui m'a plus fait kiffer qu'autre chose, quoi. On va maintenant aborder un petit peu le gameplay plus en profondeur et le moteur physique tout d'abord. Donc, est-ce que les gars, vous avez quelque chose à dire sur le moteur physique ?
Le moteur est minable, ce moteur.
Voilà, donc, ouais. Là c'est exactement le premier point, on va pas être d'accord du coup. Après. Parfait, parfait.
Alors autant la physique, je trouve que dans le gameplay, quand on part chargé comme une mule avec 18 mallettes là, de colis sur le dos, et qu'il faut jouer avec les gâchettes pour garder l'équilibre, que ça soit en descente, en courant ou en traversant une rivière, c'est plutôt pas mal. On ressent vraiment le poids en fait de la charge dans la manette, quoi, à travers la manette. Mais à côté de ça, voilà, quand on prend la moto ou même juste des fois à pied, quand on fait un petit saut et qu'on ricoche sur un rocher minable et qu'on dévale la pente pendant 25 mètres, voilà, on sent que la physique, elle a été un peu mal gérée ou quelque peu aléatoire, et je trouve que parfois c'est assez énervant et que ça peut venir gâcher l'expérience et notamment démotiver les plus téméraires, quoi. Voilà, moi c'est surtout ça, la physique et la moto spécialement. La moto, alors soit on peut tout faire à moto, et ça c'est magique, la moto d'un coup elle se transforme en je sais pas quoi, en espèce de moto tout terrain où on peut passer tout et n'importe quoi. Ou des fois le moindre petit caillou peut vous faire abandonner la quête parce que la moto est dans un état minable. Voilà. Donc ouais, pour moi la physique un peu aléatoire, un peu voilà, c'est un peu on sait pas trop quoi. Un peu inégal à travers l'expérience, pour ma part en tout cas.
Qu'est-ce que quelqu'un a quelque chose à répondre?
Ouais, alors en gros, 80% de ce que je vais dire, ça va être pour tomber d'accord avec Gabs au final. Moi, je trouve que toute la physique qui est liée au personnage seul, je la trouve bien faite. Effectivement, je trouve que quand ça penche, tu sens que ça penche, tu sais pourquoi ça penche, t'es jamais comment dire surpris pour le coup. Des fois, tu prends des missions sans trop regarder ce qu'il va falloir que tu portes, et quand tu vois l'état du nombre de caisses qui s'emplissent, tu fais mais jamais ça va passer, quoi. Et à côté de ça, donc effectivement, toute la physique chargée, je la trouve très bien faite. Et puis ça m'est arrivé de pester parce que j'avais l'impression que tout simplement notre bon Sam il avait le seum parce qu'il n'était pas foutu de passer tout seul un petit parapet de pierrasse et quelque part, enfin plusieurs fois je me suis retrouvé à lui dire, parce que moi je parle beaucoup à mes personnages, alors là j'ai besoin de cette relation avec eux, et je me suis retrouvé à lui dire mais mec, si t'es pas taillé pour le trekking, fais pas ce métier là quoi, enfin vraiment. Et pour rebondir effectivement sur le côté des motos, à quel, enfin là pour le coup c'est peut-être plus un problème d'écriture que de physique, mais à quel putain de moment, quand tu es dans un univers, enfin quand ton quotidien en fait c'est un univers post-apo où il y a un caillou tous les centimètres, pour vraiment, hein, à quel moment tu construis des motos à pneus lisses, quoi? Juste, à quel moment tu fais pas des motos cross, typiquement? Et à côté de ça,
ou un véhicule à 6 roues, quoi. Comme
ouais, voilà, parce que même le camion, je me suis retrouvé à faire des marches arrière alors que j'étais en full turbo enclenché. Pour le coup, le camion qui continue à faire des marches arrière, je me dis, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Et à côté de ça, par contre, effectivement, quand tu arrives à prendre un peu le coup et que tu as déjà repéré un passage, parce que ça fait 2 ou 3 fois que tu fais l'aller-retour, effectivement, la moto peut devenir un cheat code. et te permettre d'aller à peu près n'importe où, n'importe comment. J'ai pas trop de problème avec Sam, pour le coup, hormis un passage ou deux, vite fait, quoi, anecdotique. J'ai plus de problèmes avec la moto. Je comprends pas comment elle peut être designée comme ça dans un, si on se place si on se place entre nous en tant que PNJ du jeu. Je comprends pas comment tu peux avoir l'idée de créer une moto comme ça, pour faire ce que tu dois faire dans cet environnement-là. Mais à côté de ça, il faut bien reconnaître que la plupart du temps, enfin voilà quoi, c'est quand t'en as pas, tu pleures quoi, presque.
C'est ça, exactement. C'est vrai que là, une petite erreur de game design peut-être sur cette moto.
Ah ouais, mais enfin, il y a un passage typiquement sur le continent principal, près du premier vrai camp de mule, entre le fleuve et le camp de mule, où c'est caillouteux comme c'est pas permis, et la moto, c'est juste pas possible, quoi. Tu fais 10 cm, ça fait bong, tu tournes, bong, tu retournes, bong. Puis au final, tu continues à insister parce que tu sais qu'une fois que tu auras passé ces 10 mètres de rocher, tu vas en avoir besoin et que ça va te faire gagner 10 minutes. Quoi. Enfin, 10 minutes, j'exagère parce qu'au final, comme on va peut-être en parler à un moment donné, il n'y a pas de mission de livraison véritablement longue, mais moto, c'est compliqué. Quoi.
C'est ça.
Et les camions, c'est pire.
Slot, on t'a pas trop entendu sur le.
Ouais, non, moi personnellement, les motos, ça m'a pas plus dérangé que ça. Après, oui, effectivement, c'est chiant quand t'es sur des cailloux, mais bon. Moi perso, je fonçais dans le tas, puis bon, bah ça passait quoi.
Le mec, tu vois, en fait.
Un seul moment, ça m'avait vraiment gêné, c'est un moment où il y avait pas mal de trous, en fait, concrètement. Pour passer en moto, c'était un peu plus chiant. Mais même là, j'essayais de passer avec la moto en passant par des chemins. Enfin, je cherchais justement des chemins qui étaient moins abrupts que d'autres à ce moment-là.
Oui, est-ce que la physique part, ça modifie pas un peu la façon de.
Bah du coup, moi, par contre, ça m'a modifié un peu ma façon de jouer parce que les obstacles, tout ce qui est la physique, qui est un peu chiant, les cailloux qui sont jaunes comme ça quand tu les analyses ou rouges. Bah perso, moi, j'analysais beaucoup pour savoir par où passer où c'était plus simple. Et enfin, j'ai vu ça comme un élément de gameplay. Moi, j'ai pas vu ça comme un problème. Après, c'est mon ressenti encore une fois. Puis comme je disais, moi perso, à un moment, pareil, le coup des cailloux près du premier camp de mule. Bon, pareil, j'ai foncé dans le tas, bon bah moi j'ai failli me coincer, bon bah je continuais, et puis à un moment ça s'est décoincé quoi.
Et du coup moi j'aimerais revenir sur peut-être un autre élément du gameplay qu'on n'a pas encore abordé, et qui m'a plutôt frustré, c'est les phases de menuing en fait, le menu tout simplement. Parce que c'est quand même un jeu où on passe pas mal de temps dans le menu, dans ces différents menus en fait, pour bah, lire des notes, et surtout pour préparer ces petites escapades, et donc mettre un peu, répartir plutôt sa charge, ce qu'on va porter un peu partout sur soi, ce qu'on peut en placer sur les bras, sur les hanches et dans son dos. Et ouais, j'ai trouvé le menuing assez dégueulasse, où il y a beaucoup de choses à l'écran, beaucoup d'informations, même dans le descriptif des missions, ouais, on va te mettre beaucoup d'informations qui sont pas forcément toujours utiles.
Bah, j'ai essayé de tomber, moi perso, j'ai essayé de comprendre les informations parce qu'il y en avait trop. Même pour répartir le point,
voilà,
t'as un bouton, t'appuies sur le bouton, ça répartit automatiquement, bon bah voilà. Juste, il y avait des trucs que je remettais un petit peu parce que sinon c'était pas, ça suivait pas. Genre le coup, à un moment tu dois livrer une pizza, faut qu'elle soit à droite, sinon ça fout la garniture en l'air.
Ouais.
Effectivement, là c'est le seul moment où j'ai fait un petit peu attention à ce que je mettais sur mon dos, mais sinon.
Oui, le voilà, bouton quoi. Répartir automatiquement. Et...
Je pense quand il y a trop d'informations en fait, je pense pas être tout seul, c'est tu laisses tomber en fait, tu cherches même plus à comprendre. C'est, on te dit de faire ça, tu fais ça. Voilà.
Ouais, c'est un peu pareil. J'ai effectivement beaucoup utilisé le bouton d'organisation automatique de l'équipement. Hormis peut-être sur deux ou trois phases où j'essayais de mettre certaines armes à certains endroits en me disant que comme ça j'aurais pas besoin d'aller la chercher si jamais je me retrouve les quatre fers en l'air parce qu'elle resterait toujours plus ou moins accrochée et que ça serait peut-être le dernier truc qui tomberait. Hormis ça, sur le menu, je trouvais que c'était un héritage en fait de tous les Metal Gear, quoi.
Oui.
Parce qu'il a pas repensé, nous a pas fait une interface neuve. Là, il a une logique. Ils ont une logique parce qu'il y a beau y avoir marqué Kojima partout, quand même une équipe derrière.
Ouais, voilà,
même clair. Si je connais pas, je sais pas comment les habitudes de travail du studio et de Kojima en particulier, mais bon, on va quand même dire qu'il y a une équipe. Je pense que l'équipe a une philosophie d'ergonomie, on va dire. Elle a trouvé que ça marchait bien, que ça marchait bien avec Metal Gear. Du coup, on est parti sur un truc qui ressemble beaucoup, enfin qui est pas du copier-coller, mais qui est très 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 inspiré et qui ressemble énormément. L'interface, moi, elle m'a gêné vraiment à un moment. c'est les longues phases de combat.
Oui.
Les phases de boss, puisque effectivement, Death Stranding a beau être un jeu de livraison, si on a envie de le vanner un petit peu, il n'empêche qu'il y a quand même des combats de boss, entre guillemets.
Et tous les livreurs font ça tous les jours en même temps.
Pardon ?
Tous les livreurs font ça tous les jours, affronter des gros mutants.
T'as pas vu ma gardienne d'immeuble, hein. Et donc, pour le coup, c'est vrai que moi, ce qui m'a gêné, c'est pendant les phases de boss, c'est aller dans le menu, chercher une arme en particulier, parce que l'autre, la dernière était vide ou inutilisable. Du coup, m'en décharger parce qu'elle est trop lourde et que j'avais envie de garder un peu de mobilité et machin. Ouais, du coup, je perdais du temps. Alors après, le jeu se met plus ou moins en pause, mais plus ou moins. C'est-à-dire que t'as quand même une petite animation qui fait que tu décharges le truc. Pendant ce temps-là, tu te prends une droite. T'es en train de changer d'arme, donc tu coupes machin. Mais du coup, c'est pas les bonnes munitions, donc faut machin. Puis dans le feu de l'action, c'est pas agréable, on va dire. C'est bon, au final, on a tous fini le jeu, donc
oui, on y est. J'étais arrivé, bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a
bloqué. J'ai pas trouvé ça hyper fluide, en tout cas, sur ces phases-là en particulier. Et du coup, pas très agréable à utiliser. Il y avait peut-être plus ergonomique à faire, mais encore une fois, je pense qu'ils sont dans leur moule Metal Gear et qui est donc le
moule. À chaque fois, tu dois faire une combinaison de touches qui peut être un petit peu déroutante, quoi. En plein combat, c'est vrai que c'est chiant.
Ouais, même après 35-40 heures, mais après 35-40 heures de jeu, j'arrivais pas encore à utiliser le menu et l'interface de manière fluide. Je trouve ça assez.
Et puis si on parle des combats et qu'on parle du gameplay, moi il y a un truc qui m'a frustré pendant un bon tiers du jeu, c'est lancer des grenades à la cuillère, quoi. C'est juste pas possible, les gars, quoi. Donc on a là notre petit Sam et tout machin, on voit bien l'échoué qui est là, hein. Il est en train de nous faire une attaque cardiaque tellement on est près du bestiau. Et on est là avec notre petite grenade, et puis on essaye de viser, mais on se rend compte que non, ça va passer au-dessus, ou non, ça va passer en dessous, parce qu'on a un jeté à la cuillère qui se prépare. Et non, mec, il y a 10 façons de lancer un objet, et on n'est pas obligé de la lancer comme ça, quoi, comme un enfant de 5 ans qui joue au tennis, quoi. Heureusement, après, effectivement, il y a d'autres armes qui viennent, et notamment des lance-grenades, mais déjà, moi, je ne les ai pas utilisées du tout, en l'occurrence, parce qu'effectivement...
Non, à part sur les boss.
Tendance à tracer tout droit.
Sur les boss, ouais.
Ouais, hormis sur les boss. Et encore, je trouvais ça frustrant parce qu'il fallait viser pile la bonne zone. Enfin, ou alors sur des boss qui étaient assez. Où il y avait une hit zone, une hitbox très, 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 comment dire, très grande. Mais il y a un boss en particulier dont je parlerai pas pour pas trop spoiler non plus. Où il faut viser. Où le boss est énorme, il faut viser des petites zones pour le coup. Ouais. Et ces petites zones-là, même au lance-grenade, c'était compliqué. Donc. Bon, ce combat-là m'a beaucoup frustré d'ailleurs pour le coup. Et si vous me permettez, d'aller directement à parler des boss, juste en une phrase pour le coup, je trouve ce qui a fait la force de Kojima, c'est ça a été les combats de boss dans les Metal Gear. Alors bien évidemment, il y a le gameplay général, bien évidemment, il y a l'écriture, il y a le scénario, il y a les rebondissements, il y a l'affect au personnage. Ok. Mais au-delà de ça, on se souvient tous de Mantis dans
MGS1, ouais.
On se souvient tous du combat de sniper, on se souvient tous du...
Soro dans Metal Gear 3, je crois.
Ouais, on se souvient tous du combat de sniper dans Snake Eater, on se souvient
vieux,
de...
Voilà, ouais.
On se souvient pas de tous les combats de boss, parce qu'ils sont...
moins de ceux de MGS4, mais ça...
Comment il s'appelle le vieux dans MGS3, déjà, d'ailleurs?
The End.
Et donc globalement, la force de Kojima et du studio Kojima, ça a été de créer des combats de boss qui vraiment sortaient de l'ordinaire, quoi. C'est-à-dire on était toujours en face de trucs énormes, sortis de nulle, enfin d'une espèce de cauchemar, et Death Stranding pour le coup, il y a des phases vraiment comme ça, quoi. Mais au-delà de ça, les combats de boss, j'ai trouvé ridicules, quoi, en termes de proposition, en termes de gameplay, moi je m'attendais à chaque fois à ce qu'il y ait une tourbignole, à ce qu'il y ait un truc, à ce que je doive débrancher la manette pour la mettre sur le port 2, enfin. Bon, je joue sur PC, donc en termes de port, ça se passe pas vraiment de la même manière, mais surtout que je joue au clavier, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et typiquement, dans Death Stranding, il n'y a aucun combat de boss qui m'a fait faire ça, quoi. Et il y a un combat au corps à corps, à un moment donné, je me suis dit, je vois pas la jauge de vie, donc s'il n'y a pas de jauge de vie, c'est qu'il y a un truc. C'est que là, le truc, c'est pas qu'il faut pas juste que je lui mette des droites au gars, quoi. Il y a sûrement un truc, un décor à trouver, un machin. Non, en fait, il n'y a rien. Non, en fait, rien, c'est juste que tu tapes dessus comme un sourd.
C'était comme dans Metal Gear Solid 4, hein, contre Slot, à la fin. Tu mets des patates deux fois, hein, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui tombe.
Avant. Voilà. Alors là, là aussi, il y a eu exactement cette séquence de gameplay copier-coller, quoi.
J'ai kiffé.
Non, mais c'était intéressant parce que ça apporte un gameplay que tu n'as pas vu dans les 20 heures précédentes et que tu verras, ou 30 heures précédentes, et que tu ne vas pas voir dans les 3 ou 4, 5 ou 10 heures qui vont suivre. Effectivement, c'est un moment ovni, entre guillemets, qui va. Qui apporte un vent de fraîcheur, mais qui voilà, c'est bien. Maintenant qu'il soit là, sachant que c'est un copier-coller du jeu précédent, non. Enfin, j'ai trouvé ça trop. Non, mec, fallait trouver autre chose. Là, pour moi, c'était un aveu d'échec, c'est un aveu d'être incapable de se renouveler. Et comme dans tout, et pour le coup, tous les combats de boss, ça a été ça, quoi. Et le dernier vrai combat de boss qu'on a, enfin, voilà, le boss, il me touche pas, il se contente de me survoler. Et moi, je tombe dessus. Voilà, et merci d'être venu, quoi. Alors après, typiquement, effectivement, je l'ai pas fait en niveau de difficulté super difficile, je l'ai fait en normal. Maintenant, si je joue en normal, j'attends à avoir une expérience de jeu normale. Et là, non, là, je ne l'ai pas eu. Donc, en termes de mise en scène et d'esthétisme, les combats de boss sont réussis. En termes de jeu, les combats de boss sont ratés, quoi. Pas, encore une fois, si pas je d'accord. fais la comparaison avec les Metal Gear.
Oh non, mais même sans faire la comparaison avec les Metal Gear, hein, excuse-moi, mais le combat, on va spoiler un peu contre X, parce que forcément, il y a un moment où vous allez l'affronter, c'était nul. C'était nul, 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 nul. Franchement, il n'y avait rien qui allait. À part, ouais, cette phase-là, de cette Kojima à la fin, là. Mais sinon, franchement, je n'approuve pas le fait de devoir courir comme ça pour ramasser des colis et foutre dans la gueule. Je m'insurge.
Ouais, et encore, parce que tu t'es fait chier à le faire. Hein.
Ouais, parce que je me suis fait chier à le faire. À ce moment, je pouvais juste lui mettre des patates.
C'est ça. J'ai juste mis des patates dans sa tête, et puis voilà, quoi. Et pareil, pour finir sur le côté combat, quand dès le début du jeu, on voit qu'on va se battre avec une espèce de corde, je me dis, bon, bah là, il y a des trucs à faire, tu vois, il y a des prises, il y a l'étranglement par l'arrière et tout. Non, même si t'arrives à arriver derrière un ennemi silencieusement et indétecté, non, tu te contentes à lui mettre des patates de forain, en fait. Il n'y a pas de mise en état de nuire de l'ennemi en un coup ou via une combinaison de touches. Non, c'est vraiment, t'arrives, même la première fois où je suis arrivé derrière une mule, en l'occurrence, totalement indétectée, j'ai même pas pu la frapper de dos puisqu'elle était assise sur une caisse. Il a fallu que je me mette devant elle, du coup, elle a tapé normalement. Et j'ai trouvé ça hyper frustrant, ouais, surtout en ayant développé un système de combat pour les Metal Gear et en ayant encore une fois tous les combats de boss que j'avais en mémoire dans les jeux Kojima, quoi.
Ouais. Gaps, Slot, votre avis sur les...
Oh bah les combats de boss sont nuls, quoi, ça y a pas à redire.
Ouais, ils étaient un peu rasants, j'avoue, ils sont pas trop mémorables, après...
Perso, je crois que Gaps, tu l'as fait en même temps que moi à la sortie.
Sortie PS4, en difficile.
En PS4, voilà. Est-ce qu'il y en a un seul dont tu te souviens encore aujourd'hui?
Ouais, bah notamment contre X et le...
Pas l'apparence du boss, le combat.
Ouais, si, le combat, ouais. Contre X, je sais... Alors, peut-être pas tout, celui quasiment tout, je pense, quand même. Mais après, j'étais en difficile et j'en ai un peu chié. Voilà, je le cache pas. Il faut savoir qu'en difficile, les poches de sang, elles se vident très, très vite. Et donc, t'es tout le temps en train de... dans ton inventaire. Et comme il a dit très justement à Ezeplay tout à l'heure, bah, dès que tu vas dans ton inventaire pour reprendre une poche de sang... ou une arme, etc., bah, les 3 ou 4 secondes de changement, bah, tu prends encore des dégâts dans la gueule et c'est très chiant, quoi. Donc, si, je me souviens de quasiment tous les combats de boss que j'ai fait dans Death Stranding. Mais oui, c'est vrai qu'après, en termes de gameplay ou de jeu, c'était pas très fun, quoi. Voilà. Même si j'ai adoré mettre des patates de forain contre Higgs pour spoiler. Après, ouais, le géant, il est chiant parce que ouais, t'as que le lance-roquette pour le toucher à peu près et t'as 15 000 échoués à tes pieds. C'est pas très probant ou même, je me souviens plus du militaire, là, comment il s'appelle, de Mac Mikkelsen, là.
Clifford?
Ouais, voilà.
Ah oui, Clifford, voilà.
Clifford. Tu joues contre lui, c'était pas évident. Il a ses 4 gardes squelettes, faut les tuer d'abord pour le toucher ensuite lui. Les 4 gardes, c'est des surhommes, en fait. Dès que tu fais, si t'es pas super bien caché ou dès que tu fais le moindre bruit, ils t'allument, quoi. Donc voilà. En tout cas, en difficile, pour ma part, c'était des expériences un peu rasantes. Mais je m'en rappelle, en tout cas. Ça, c'est sûr.
Bah, après, là où les combats de boss m'ont marqué, par contre, ça, c'est là où Kojima a toujours été très fort. C'est au niveau mise en scène et bien sûr, et apparence des lieux où on se bat et du combat en lui-même.
Ouais, c'est ça.
et plus globalement, ouais, bah après on peut aussi parler du coup de la mise en scène du jeu en général, qui franchement assez ouf pour le coup. Il utilise toujours, d'ailleurs, j'ai l'impression, un peu l'effet caméra à l'épaule, caméra à portée, comme il avait fait sur MGS5, si je dis pas de bêtises. Et ouais, jamais, enfin, je trouve que ça fait hyper cinématographique et hyper, hyper film, quoi, en fait. Et tu rajoutes à ça, bah, le casting qui est fait de vrais acteurs, et pour le coup, bah, niveau mise en scène et niveau.
Ouais, et alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, et je vais même spoiler le test que je suis en train d'écrire, puisque je fais le. Petite auto-promo pour le coup pour les auditeurs, je suis en train d'écrire le test à l'occasion de la sortie sur PC. Moi, je pense qu'il a pas envie de faire des jeux vidéo, ce monsieur. Quoi. Je pense
qu'il l'a dit.
Il a toujours dit qu'il voulait faire du cinéma. Ouais. C'était voilà, il est ultra fan, etc. Mais il a fait des jeux vidéo.
Alors pour le coup, il a fait des très bons jeux. Death Stranding, c'est un très bon jeu aussi, mais du coup, je vais l'attendre au tournant, même si j'y jouerai pas parce que c'est pas ma cam. Avec son prochain titre qui est, si je me trompe pas, Silent Hill.
Alors ce sera un jeu d'horreur, mais ce sera pas Silent Hill.
Ce sera pas Silent Hill.
Konami a toujours les droits actuellement.
Ouais, ils sont pas copains,
ce qu'ils vont en faire, mais bon.
C'est ça. Sûrement.
Ils sont pas hyper copains. De toute façon, même si on a lu aucune interview de Kojima, c'est criant que ce mec-là a envie de faire du cinéma, quoi. Mm. De la façon dont les crédits sont montrés. Le générique de début, le générique de fin, avec donc les crédits sur avec toutes les équipes pour le coup techniques, de la façon dont c'est monté, de la façon dont c'est amené, c'est cinématographique, c'est pas du tout vidéoludique. Le casting, effectivement, ça fait plusieurs années qu'il nous met des guests, et puis là c'est même plus qu'il y a des guests, il y a que ça en fait.
C'est ça.
Que ça. Que ça soit le copain du la cosplayeuse, peut-être même la cosplayeuse que j'ai pas reconnue, donc je sais pas si c'est quelqu'un de connu ou pas, jusqu'au rôle principaux, qu'effectivement là il y a un amour du cinéma et une envie d'y aller qui est faramineuse, et puis ça se voit aussi dans les cinématiques, dans la façon dont elles sont montées, dans les mises en scène comme tu disais, et pour le coup comme je m'apprête à l'écrire dans mon test, c'est fais des films, quoi. Enfin, juste arrête, quoi. Arrête de faire des jeux. Tant pis, hein, parce que les jeux que tu fais, ils sont bons, mais t'as clairement envie de faire des films. Et plus le temps va passer, et moins tu vas faire de films, plus tu vas faire des jeux qui vont être sujets à polémique, parce que tu vas te rapprocher de plus en plus du film dans tes jeux, quoi. C'est pas ce qu'attendent les joueurs. Là, c'est passé, pour le coup, même si on remarque que les boss ceci, que le gameplay cela, et machin, c'est quand même passé. Encore une fois, il y a un succès critique et commercial à l'arrivée, mais j'ai un peu peur des prochaines productions, ouais, pour le coup.
Je suis pas spécialement d'accord, je trouve que justement il amène un truc différent dans les jeux vidéo et dans l'univers en tout cas vidéoludique. Voilà, lui c'est sa touche, il fait des gros scénarios plutôt alambiqués, plein de symboliques, et avec une réalisation très cinématographique. Et ben, grand bien nous fasse. Après, il y a des mecs comme David Cage, voilà, qui oublient le gameplay et qui font que des scènes cinématographiques, tu vois. Et pourtant, ça se vend et il y a une communauté qui aime ce genre de jeu. Et moi, le premier, hein. Je ne vais pas fâcher, c'est David Cage. Mais, donc, pourquoi, voilà, tu vois, Kojima, ben, il amène un truc différent et je trouve que c'est bien, tu vois, qu'il en faut. Parce que sinon, on va se retrouver tous avec des Assassin's Creed et des GTA et voilà. Et des mondes ouverts bac à sable où on va pouvoir faire tout ce qu'on veut et il n'y aura plus aucune cinématique ou réalisation.
Celui-là en bac à sable, il est pas mal, hein.
Digne de ce nom. Oui, celui-là en bac à sable, on peut difficilement faire mieux. Il y a le Zelda, Breath of the Wild dans le genre, tu vois. Mm. T'as un monde, tu peux aller où tu veux, tu peux faire un peu ce que tu veux.
Et pourtant, je pense que j'adore Hideo Kojima, le game designer, mais je sais pas par contre si j'aimerais, tu vois, le Hideo Kojima réalisateur.
Je pense qu'il a compris qu'il a les moyens de faire du cinéma, hein, clairement. Si t'as les moyens de produire un jeu comme Death Stranding, c'est que t'as les moyens derrière de faire des courts-métrages.
Clairement. Oui, non, c'est clair.
Maintenant, je pense qu'en termes de narration, ce qu'il peut se permettre sur un Death Stranding, c'est-à-dire, je crois qu'il y a près de 9 ou 10 heures de cinématique, ou on va dire de moments clés, sans parler
oui,
de
ça. Oui,
bien sûr. En plus, c'est, on va dire, minimum, c'est-à-dire, ça serait les scènes obligatoires, on va dire.
Voilà. Du coup, il peut se permettre de mettre 6, 7, 9, 10 heures de cinématique ou de dialogue dans un jeu, autant le faire dans une production, hormis de faire une série. C'est compliqué, hein.
C'est compliqué, ouais. C'est clair. Je trouve que c'est tellement en plus dans la façon dont tu utilises l'interaction entre bah, joueur et son jeu qui brille le plus. Que, enfin, on se souvient tous du coup de Kojima pour justement où il fallait voilà brancher ta manette sur le deuxième port ou petit comment utiliser ta carte mémoire. Même The End où tu pouvais le battre dans MGS3 en avançant l'horloge interne de la console. Mmh. Et du coup, ouais, je trouverais ça gâché entre guillemets, sachant que ce que je préfère chez Kojima justement, c'est son game design. Quoi.
Ouais, mais tu vois bien que le game design, déjà, on commence déjà à en débattre. C'est un débat, c'est cette discussion qu'on a là sur le game, sur le gameplay, on l'aurait jamais eu sur les premiers Metal Gear, parce que c'est du millimétré du début à la fin. Il y a des trouvailles absolument à tous les niveaux. Enfin voilà quoi. Moi, je trouve que ça s'essouffle un peu pour le coup. Et du coup, même si j'ai apprécié Death Stranding, encore une fois, j'ai un peu peur pour le prochain jeu, quoi.
Ouais, je voudrais pas qu'il. Ouais, je suis d'accord. Après,
faudrait pas qu'il se parodie lui-même en fait. Pour,
ouais, c'est ça.
C'est bien tout ça, quoi.
C'est ça.
Faudrait pas qu'on retrouve un vieux Snake allongé au milieu des morts vivants, quoi. Dans un espèce de Silent Hill.
Du coup, on a déjà pas mal parlé de Death Stranding, donc on va conclure, je pense, plutôt sur le gameplay avant de commencer à parler de la symbolique et des thématiques.
Ouais.
Donc, sur le gameplay, oui. On va préparer la transition tout doucement. Je voulais savoir votre avis sur les combats, en fait, parce que moi j'avais un gros souci sur le fait qu'il y ait justement des armes à feu dans ce jeu. Alors ok, on a le choix de les utiliser ou pas, d'ailleurs, parce que pendant les boss, bon, on est bien obligé de les utiliser, mais dans le plus gros de l'aventure, on n'est pas forcément obligé de les utiliser. Et voilà, je trouve que ça va un peu à contre-courant de tout ce qu'il essaye de nous dire sur le lien entre les gens, qu'il faut être gentil avec son prochain, que l'antimilitarisme, etc. Donc je voulais avoir un peu votre avis sur cet aspect. Est-ce que je suis le seul à avoir ressenti le truc comme ça? Est-ce qu'on s'en fout au final qu'il y ait des lance-grenades?
Est-ce que, juste petite parenthèse avant, parce que SVP il parle beaucoup de succès critique et commercial, est-ce qu'on a, on a un chiffre sur les ventes de Death Stranding PS4 en tout cas?
Alors, j'ai pas de chiffre à te donner, mais je peux te trouver ça si tu veux.
Je cherche sur internet, j'ai pas trouvé. Et parce que moi, il m'a semblé que commercialement, c'était pas le succès escompté. Hein. Je sais même pas s'il a fait le million de ventes. Hein.
Enfin bon. Mais écoutez, je vous invite à débattre du sujet que j'ai lancé.
Yes, carrément.
De chercher vite.
Moi, pour ma part, je crois que j'ai dû me servir d'arme à feu une seule fois dans le jeu, hors boss, hein. Hors scène de boss, bien entendu. Voilà, sinon, c'était que des armes non létales. Et effectivement, j'aime bien cette liberté de se dire, c'est un monde post-apocalyptique. Effectivement, il y a les mules qui ont un peu perdu la tête et un peu façon Mad Max où on va prendre, voler tout ce qui traîne en tout cas. Tout ce qui passe par là, on va le racketter. Mais voilà, faut pas oublier que c'était des humains avant, comme nous, et qui vivaient dans le même monde. Donc c'est vrai que j'ai fait le choix de pas tuer les mules, quoi. Voilà, pour moi, les vrais ennemis, ou en tout cas, c'était les échoués. Et une fois qu'on débloque le couple lien, sans spoiler, pour libérer un peu ces échoués de leur, comment dire?
De leurs conditions.
Ouais, de leurs conditions, c'est ça. Et le jeu, a pris un peu plus de sens et surtout a été rendu beaucoup plus facile pour ma part en tout cas. Mais voilà, ça va dans la même veine que des Metal Gear sur fond de guerre froide où finalement on se retrouve avec un pistolet tranquillisant pour ours et avec lesquels on endort des forces spéciales russes ou qui sont assez incroyables. Donc pourquoi pas? Moi ça me dérange pas. Je trouvais que dans le jeu ça s'y prêtait plutôt bien dans un monde en reconstruction, en quête de liens sociaux et de communication, c'est pas mal de pas s'entretuer à tir l'arigot, comme le moindre jeu en TPS, faut toujours tuer le prochain, l'ennemi, le monstre, peu importe ce que c'est, quoi.
Très bien, les autres, un avis?
Alors sur les armes, pour le coup, vu l'univers, je trouve que ça aurait été aberrant qu'il n'y ait pas d'armes. Il y a des ennemis. En fait, à partir du moment où tu as des ennemis en face de toi qui t'en veulent, faut que t'en aies. Ou du moins, si ton personnage n'en a pas, il faut au moins que tu aies conscience qu'il y a des gens qui sont armés, quoi. Après, effectivement, il aurait peut-être pu aller au bout du truc et dire non, toi, t'es livreur, t'as pas le droit aux armes, fin d'histoire, quand tu te débrouilles, quoi. Et puis, tu lances des cailloux sur les gens, et fin d'histoire. En plus, les cailloux, c'est pas ce qui manque. Donc, globalement, on n'aurait été jamais à court de munitions. Mais effectivement, j'ai été très, très content de voir arriver les premières armes en jeu en me disant ça y est, là, c'est bon, les mules. Je vais les gérer à l'ancienne, quoi, à la Call of Duty. Et en fait, le jeu te dit attention, attention, petit homme. Si tu tues des gens, les échoués vont arriver. Et donc tu vas voir là, je sais plus le terme. Pour le coup, c'est la néantisation, c'est ça?
C'est ça.
Voilà.
Oui, exact. Si tu laisses les cadavres,
si tu laisses les cadavres et tu cherches pas les cadavres, tu as des risques de néantisation, tu as des risques de ceci, tu as des risques de cela.
Mais on est d'accord, ça arrive vraiment, ça?
Alors, je sais pas, j'ai pas essayé pour le coup.
Ben pareil, alors, voilà, moi j'ai laissé trois cadavres.
Alors j'ai essayé pour tester, oui, effectivement, il y a un moment ça
merde. D'accord, ok.
Okay, et qu'est-ce qui se passe du coup, une antisation de la zone et du coup plus rien.
Alors à ce moment-là, je m'étais déjà barré, mais j'ai vu sur la carte qu'il y avait justement marqué sur la carte cadavre, naissance d'échouée, un truc dans le genre.
D'accord. Je ne sais
plus exactement comment c'était marqué, mais en gros, il ne fallait pas y retourner, quoi.
D'accord, oui, mais du coup, c'est pas l'anéantisation comme on peut voir au début du jeu.
J'ai pas été voir.
Non, je pense que le jeu reste jouable, donc oui. Je pense qu'ils ne font pas un cratère sur la zone. Non. Mais du coup,
c'est vrai que c'est une zone à échouer, ouais, c'est d'être ça.
Ou alors, oui,
c'est
voilà.
Une zone avec des échoués qui arrivent, voilà.
D'accord, ok. Ouais,
et pour le coup, donc, qui est ce concept-là, je trouvais ça intéressant. Il y a des armes, ok. Tu peux tuer des gens, d'accord. Mais le problème, c'est que si tu les tues derrière, va falloir gérer le truc, quoi. C'est-à-dire qu'il va falloir emmener les corps au, comment dire, au
crématorium,
voilà, l'incinérateur. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un énorme, je pense, j'y pense du coup au moment où je le dis, mais qu'il y a un énorme incinérateur en plein milieu de la map, pas loin d'un camp de mules, vers la moitié du jeu. Donc il y a ça, et ce que j'ai trouvé surtout pertinent dans le discours antimilitariste, c'est justement les munitions sanguines, où si tu veux faire mal aux échoués, il faut que tu te fasses du mal à toi, quoi. Et en fait, tu risques l'anémie en tirant des balles sur les échoués, puisque ce sont des balles à hémoglobine, puisque le personnage de Sam, pour les quatre qui ne sauraient pas de quoi on parle à ce moment-là du podcast, a effectivement a une maladie, on va l'appeler comme ça, un pouvoir, une maladie, je ne sais pas trop comment le
particularité.
Le fait que son sang a des propriétés particulières et qui font que les échoués sont sensibles et que du coup le sang de Sam est une arme potentielle contre les échoués, quoi. Donc effectivement, le fait que tu te vides de ton sang littéralement pour détruire les échoués, ouais, moi j'ai trouvé qu'il y a une symbolique assez forte à ce niveau-là. Et du coup, avec les balles normales contre les ennemis humains, tu dois, si jamais tu vas là, gérer, comment dire, enfin, devoir gérer derrière les cadavres, sous peine d'avoir un champ d'échoués à un endroit pas très propice, pas très de la map, du moins pour la suite de ton aventure, ouais, je trouvais ça très, très pertinent, quoi.
Et n'oublie pas aussi que on peut nous tuer les échoués, mais pas uniquement avec de notre sang. Parce qu'on peut aussi, il me semble, si je ne dis pas bêtise, leur envoyer notre caca sur la tête.
Ah oui.
Ouais, mais ça les stun, oui. Ça les tue pas, non?
Ça les tue pas. T'es sûr ça les tue?
Les mules? Oui, tu peux leur envoyer tes bombes de merde dans la gueule. Ça.
Mais les mules ou les échoués?
Les échoués, ça les stun, ça les détruit pas, en fait.
Ça les détruit pas, ok, d'accord.
Non, ça les détruit pas.
Tu peux leur pisser dessus, par contre. Pisser dessus, ça marche.
Ouais, tout à fait. Mais d'ailleurs, les grenades, en fait, depuis, c'est de caca de
Sam. Des excréments, au final, et de ta sudation, de tes fluides corporels.
C'est ça.
Fluides corporels, ouais.
Corporel de Sam.
C'est tout à fait. Voilà. Je voulais le placer quand même, quand on lance des.
Bon appétit pour ceux qui écoutent ça en mangeant. C'est jamais. Voilà.
Je vais pas finir ce podcast sans.
Ah, la grenade au caca.
Bon appétit, bien sûr.
Et oui, les grenades au caca, tu peux les envoyer aussi sur les mules, il n'y a pas de problème.
Ouais, mais.
Sur les mules, j'ai pas essayé, je t'avouerai.
Non, bah, de toute façon, au bout d'un moment, je pense qu'on a tous réagi à peu près de la même manière. C'est-à-dire que le premier camp d'échoués, le premier camp de mules, on y a été à tâtons, on y a été limite comme Snake l'aurait fait, en essayant de passer vraiment nickel, parce qu'on voulait pas se battre, surtout au début du jeu, vu l'équipement qu'on a. Autant on comprend très très vite, en fait, que si on passe tout droit, ça, tranquille, quoi. Et au bout d'un moment, ça devient une autoroute, quoi. On prend la fameuse moto dont on parlait tout à l'heure. On prend le camp de mules, on fait bonjour les copains et on passe tout droit, quoi. Et du coup, alors quelque chose que j'ai effectivement déjà dit en off, mais du coup, il y a une question intéressante à poser, c'est les mules, en fait, elles deviennent agressives, enfin, elles vous cherchent à partir du moment où tu rentres sur leur territoire. Ou à la limite, voilà. Si elles te voient parce qu'elles patrouillent légèrement en dehors, mais tu sais que la menace, elle va arriver si tu pénètres sur leur territoire et elle va s'arrêter quasiment au moment où tu vas sortir de leur territoire. Elles vont peut-être te suivre sur 4-5 mètres, surtout si elles étaient déjà quasiment encore à corps, mais elles vont pas te suivre très très loin en dehors de leur territoire. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a un sens à ce niveau-là? Est-ce que les game développeurs de chez Kojima se sont dit on fait ça comme ça parce que du coup il y a une histoire de de conquête territoriale et à partir du moment où vous quittez leur territoire, voilà, c'est terminé. Ou est-ce que c'est un gameplay mal fichu, quoi. Eh ouais. Coup,
moi, ce que j'imaginais dans les mules, c'est que clairement, au début du jeu, on t'explique que voilà, les mules sont des hommes comme Sam Porter qui sont en quête de marchandises. Voilà,
ils ont pété un câble.
Ils ont pété un câble, voilà. On va récupérer tout ce qui traîne et on va vivre comme ça. Et donc, du coup, moi, je me suis dit, bah, c'est très simple. Je vais lâcher toute la marchandise avant, je vais traverser la zone et je serai pas emmerdé. Sauf que, bah, non, pas du tout. Même si tu passes à poil, et ben, ils vont t'attaquer. Et ça, j'ai pas très bien compris pourquoi. Et ça avait pas trop de sens. Pour moi, en tout cas, à ce niveau-là du jeu, ça veut dire que pourquoi ils viennent m'emmerder.
Après, c'est juste aussi parce que toi, t'as une combinaison bleue, alors que eux, ils ont une combinaison orange.
Ouais,
bon. T'es pas comme eux.
Ouais, mais
ils sont racistes en plus.
Si tu changes les couleurs de ta combinaison, je suis sûr que ça change rien.
C'est ça, non, mais tu vois, je suis un pauvre livreur, j'ai pas de marchandises sur moi, à part peut-être quelques poches de sang et quelques voilà de caca. Éventuellement.
Et ben voilà.
En plus, c'est.
Et encore, je suis même pas sûr. Et ils t'attaquent à la Kalachnikov et à je sais pas quoi, tu vois. J'ai trouvé ça un peu, voilà, insensé pour moi de.
Alors, je suis un peu d'accord avec toi, je vais même aller un peu plus loin, dans le sens où, quand tu te fais choper par les mules, bah en fait ta marchandise elle est stockée dans un de leurs coffres et puis tout ce qui n'était pas marchandise en fait c'est à 10 mètres de toi donc au final ils t'ont rien piqué ils t'ont même rendu des trucs quoi.
Ouais c'est ça donc, et genre quand tu passes un chapitre je sais plus lequel là quand tu passes dans une nouvelle zone d'un coup les mules ça devient des forces spéciales irakiennes quoi, ça veut dire que tu passes un pas dans leur zone bientôt ils t'attaquent à 18 à coup de lance-roquette et alors qu'ils sont à 1 km de toi. Je trouvais ça un peu insensé quoi, je veux dire.
Après,
du coup, les camps de mules, ben, moi je me suis pas frotté quoi, ça me saoulait.
Bah, en fait, je les ai vus, je pense.
Bah ouais.
Vous avez tous fait pareil, on les a tous
vus. Oui, je pense que
c'est parce qu'il n'y avait pas d'intérêt à les attaquer ou à.
Ah, clairement, mais même. Il y a même certains camps d'échoués à la fin où je cherchais même pas à comprendre. J'allais tout droit, je me faisais choper, ok, super. Il y avait le gros échoué qui arrivait du coup puisqu'il m'avait ramené au milieu
de la campagne. Tu traces aussi là parce que
je traçais aussi une petite bonne journée, merci d'être venu quoi.
Ouais, voilà.
Oui, il y a pas vraiment de menace en soi, je trouve.
Non,
il y a pas de menace. Il y a pas de menace dans le sens où les ennemis ils évoluent pas du tout aussi accessoirement, c'est
bah il y a deux types de mules et il y a deux types d'échoués hein, globalement.
C'est ça et ouais, ça évolue pas de tout le jeu en fait. Donc une fois que tu as compris comment les contrer, que tu en fin de compte qu'elles sont pas si dangereuses que ça. Bah, ça perd un peu son intérêt de ce côté-là, je trouve. Les menaces sont pas de vraies menaces jusqu'à la fin du jeu, quoi.
Mais du coup, est-ce qu'il y aurait pas juste pas d'antagoniste en fait dans le jeu ? Ce serait pas un jeu sans ennemis, hormis Higgs, mais.
Hormis la physique.
Ouais. Hormis la physique du jeu.
Voilà. Un livreur qui doit affronter la gravité, effectivement, c'est
plus profond
qu'il n'est paraît.
Ouais. Et non, j'ai juste rajouté un truc sur les mules et dans l'emprise de ce jeu, je me suis retrouvé à tuer 3 mules, à devoir laisser leurs cadavres au milieu là, et j'ai culpabilisé de ouf. Et je me suis dit, la zone elle va être nantisée, tu vois. Et je fais, c'est quoi ce jeu ? Du coup, pourquoi je suis pris de remords de laisser 3 cadavres de mules qui m'ont attaqué à 18 à coup de Kalachnikov, tu vois. Et enfin bref, je trouve que ouais, le jeu sur ça, il a été assez fort finalement sur les conséquences de nos actes.
Indirectement, ça te poussait à faire le truc pacifiquement, quoi,
concrètement. Ouais, voilà.
À éviter de tuer.
Donc, bon.
C'est ça. Et pour rebondir, du coup, sur ta question qui m'a trigger, SV, est-ce que le jeu aurait pas d'antagoniste? Bah, moi, j'aurais aimé qu'il en ait pas, justement. J'aurais aimé que Kojima aille au bout de sa démarche, mais je trouve que, justement, c'est dommage qu'il ait voulu en mettre. Je sais pas vraiment pourquoi il a voulu en mettre. Je pense que peut-être parce qu'il en avait envie. Mais.
C'est plus simple à comprendre. T'as les gentils, t'as les méchants.
En fait, surtout pour répondre à certains critères, parce que je pense que si vraiment il y avait eu zéro gameplay de combat, zéro menace, que de la marche en fait, que de la livraison, là où le seul problème que t'as le seul antagoniste finalement c'est l'environnement, je pense que ça aurait moins accroché avec les joueurs.
Non, je pense que les échoués c'était une bonne idée en fait à la base.
Ok, pour les échoués.
Ouais. C'est le fait qu'ils évoluent pas, franchement, qui est dommage. Au début j'aimais bien les zones des échoués, enfin j'aimais bien. Dans le sens où j'aimais bien faire ça parce que ça rajoutait un petit peu de suspense, tu savais pas où est-ce qu'elles étaient, tu devais les chercher et les esquiver surtout parce que tu avais aucun moyen à les affronter. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu récupères justement un crochet qui te permet de les tuer quand tu les trouves. Ou alors sinon, tu as les lance-grenades comme on avait dit, tu peux leur pisser dessus, une fois que tu découvres comment les contrer, en fin de compte, c'est vrai que ça devient un petit peu plus facile. il n'y a pas d'évolution où elle s'adapte justement à s'adapte aux joueurs en fait concrètement pour devenir de nouveaux obstacles.
C'est pertinent.
Ouais, c'est clair. Après, effectivement, pour aller dans ton sens, c'est vrai que les bulles, moi, encore une fois, je me voyais arriver là-dedans comme Snake, et puis j'étais vachement déçu de voir ce que je pouvais au final faire avec le personnage et contre les ennemis. Et puis, effectivement, pour le coup, moi, testant la version PC, je suis effectivement fadé 6 mois de spoilers, de remarques, ouais. Et de mèmes sur Internet. Donc, je savais déjà à peu près à quoi m'attendre. Mais c'est vrai que c'était... Enfin, voilà, t'as deux types d'échoués, les normaux et les Super Mouse. Les Super Mouse qui font au final que te tourner autour. Et les mules, t'en as deux types, dont un qui s'attaque que de dos. Et alors, putain, pour se retrouver dos à eux, c'est déjà c'est un challenge. Donc, au final, les mules, je me souviens d'avoir vidé un camp de mules à la moto, quoi. Je leur fonçais dessus à la moto comme dans GTA. J'ai assommé tout le camp comme ça. Merci d'être venu. Je ramasse ma marchandise et bonne journée, quoi.
Ouais, ça ou le lance-bolas, hein, de toute façon.
Ouais. Je sais plus si je l'avais à l'époque, si je l'avais déjà à ce moment-là, ou si je l'ai eu juste après.
J'allais dire, juste pour rebondir sur la question, là, du coup, est-ce qu'il y a un véritable ennemi? Le principal ennemi de Death Stranding et de Sam Porter, c'est la solitude. Ça veut dire que si tu décides de faire tout seul au bout d'un moment, même si c'est pas possible, parce que t'es obligé de faire des quêtes quand même, bah en fait ton équipement sera pas suffisant pour avancer dans la quête. Et quand bien même s'il était suffisant, s'il y avait pas, par moi en tout cas personnellement dans mon expérience, si j'avais pas eu des abris, des cabanes, des trucs, des tyroliennes ou des motos,
ah oui, avec le multijoueur, ouais.
Ouais, avec le multijoueur, on y reviendra plus tard. Et ben le jeu il aurait été interminable. Et pourtant j'ai pas poussé beaucoup les quêtes avec les personnages secondaires, on va dire, par exemple le médecin ou la cosplayeuse, etc. pour débloquer de nouveaux stuff. J'ai fait l'essentiel pour arriver à la fin de cette expérience. Mais voilà, pour moi c'est clairement la solitude, et c'est un jeu que tu peux pas terminer en rushant de A à Z le jeu. Et j'étais très surpris ou à grand surpris de voir un speedrun de ce jeu, quoi. Savoir comment ça se passe, ou un jeu après ça pose d'autres questions sur le jeu vraiment. Est-ce qu'il était en ligne? Est-ce que c'était vraiment des vrais joueurs qui construisaient des routes et des abris ou des motos, hein. Voilà, ça pose d'autres questions. Mais est-ce que si tu joues hors ligne, en fait, est-ce que t'as quand même accès à cet équipement? Je sais pas. J'ai pas fait le test en tout cas. Donc voilà, pour moi, le vrai ennemi, c'est ça, c'est la solitude, et c'est ce qui transpire dans le jeu, c'est voilà la reconnexion sociale et le lien social qu'il peut y avoir entre les gens qui peuvent sauver l'humanité.
Putain, trop de thématiques et de sujets abordés d'un coup, là. Voilà. Par lequel vous voulez commencer? On commence par...
C'est ça, le vrai ennemi, quoi.
Bah, l'antimilitarisme, je pense qu'on a déjà bien évoqué. Après
oui, la reconnexion, au final, entre les gens.
Ouais. Ouais. Alors peut-être avant ça, parce que je sens qu'on va très très vite déborder sur le multijoueur derrière. Est-ce que vous avez vu d'autres thèmes justement? Alors ceux-là sont obvious, hein, parce que tout le monde les a vus et tout le monde les, enfin, ils sautent aux yeux en fait, quoi, pour le coup. Mais est-ce que vous en avez vu d'autres? Je sais que Gap t'a écrit un dossier sur le, enfin un édito dossier sur le sujet.
Ouais, complètement. Ouais. Je l'ai sous les yeux. Hein.
Oh, vas-y, yeah, il a eu ses antisèches.
Ouais, complètement. Bah, je m'étais documenté, j'avais écrit quand même, c'était un beau petit pavé il y a 6 mois, donc je me rappelle plus, mais.
Bah, dis-nous.
Vas-y, vends le truc, vends le dossier, mec.
En nous vendant le truc.
Vends le dossier. Alors, qu'est-ce que j'avais dit?
Par contre, du coup, attention, on va spoiler, hein.
Oui, on va dans une sauce spoiler, en effet.
Spoiler, effectivement, oui, il peut y avoir spoiler. Bah, effectivement, j'avais dit que c'était assez ancré dans l'actualité, parce que, bah, rien qu'avec aujourd'hui, tout le monde commande sur Internet et tout le monde voit des dizaines de livreurs passer ou circuler, ou bref. Moi, pour la petite expérience personnelle, j'habite au rez-de-chaussée, autant vous dire que les livreurs, ça n'arrête pas toute la journée. Et voilà, et donc là, on vous propose d'incarner un livreur. À quel moment on s'est dit que c'était une bonne idée en réunion, quoi? Les gars, j'ai une idée d'un jeu, on va livrer des colis. Donc notamment des médicaments, des pizzas, des plantes, enfin, il y a de tout et de n'importe quoi quand même dans
PlayStation.
Ouais, c'est ça. Et finalement, bah la sauce, elle prend, et puis on s'accroche parce que je pense que le scénario, il n'y est pas pour rien, et que la profondeur des personnages aussi est beaucoup. Après, le monde en lui-même, le monde post-apocalyptique, bon, il est un petit peu original, mais c'est pas non plus la folie, quoi. Qu'est-ce que j'avais dit? Et finalement, regardez. Bon, là, c'est un peu plus tard, mais avec le confinement que nous vivons aujourd'hui, finalement, dans Death Stranding, tous les gens sont déjà confinés dans des espèces d'abris anti-nucléaires. Là, anti...
C'est vrai.
Et finalement, bah, ça réduit le... Ça réduit quoi? Ça réduit les maladies, les MST, la population forcément qui est... La population qui est en baisse aussi. Et finalement, l'écologie qui reprend un peu de verdure, quoi. Et Death Stranding, pour le coup, c'est un grand champ vert avec des cailloux et quelques montagnes enneigées. Donc Death Stranding, ça respire, quoi. Malgré ce grand vide du monde où il y a aucun PNG, quoi. Faut le dire. PNG. Excuse-moi.
Ah, parce que t'as disparu. Même les animaux, en fait, je suis en train de faire la on voit
aucun animal.
On voit aucun animal.
Oh, animaux, ouais.
Ils sont tous morts, que tu vois, quoi.
C'est potentiellement, ça. Ouais.
C'est pas grave.
C'est vraiment remis à zéro avec quelques humains qui ont survécu.
C'est ça. Donc,
après, voilà. Dans Death Stranding, il faut aimer les fruits de mer, quoi.
C'est ça,
ouais.
C'est ça, ou les cétacés.
C'est ça, ouais.
Et finalement, qu'est-ce qui se passe aussi, c'est que, force est de constater que ce monde n'est plus connecté du tout. Ni Internet, ni par quelconque manière que ce soit, quoi. Donc, dans un monde actuel où une info circule en un dixième de seconde d'un bout à l'autre du monde, bah là, il faut qu'il y ait un homme avec ses deux jambes qui vous amène une pizza parce que vous lui avez envoyé un mail il y a 3 jours, quoi.
C'est ça, et qui vient installer la fibre chez vous aussi.
Ouais, voilà. Donc j'ai trouvé que ce jeu vraiment dans l'actualité il était vraiment prenant, quoi. Je veux dire, ça questionne du coup sur la place des livreurs actuels, hein, les réels, hein. Je parle des livreurs Amazon et FedEx et les vrais, quoi, et sur lesquels on se plaint tout le temps, et pourquoi il a pas sonné, qu'est-ce qu'il fout, il a un jour de retard, etc., quoi. Alors que dans Stranding, on éprouve un peu cette expérience de dire finalement c'est pas si facile que ça de livrer un colis en bon état, dans le bon timing, à la bonne personne, quoi.
J'ai insulté ceux qui vivent dans la montagne.
Ben voilà. Donc c'est ça, exactement.
L'humanité la population mondiale, on ne sait pas, en fin de compte, parce qu'on parle que des États-Unis dans le jeu. On ne sait pas du tout ce qui se passe en Europe, en Amérique du Sud, au Canada.
Non, ça se passe tranquille, hein, c'est juste les États-Unis. Hein. On laisse se démerder parce qu'on n'a rien à foutre.
Et typiquement, ouais, enfin, tu te dis, mais à quel moment dans... sur le même discours que les motos de tout à l'heure, à quel moment, quand tu vis dans un univers comme ça, tu dis, tiens, je vais aller m'installer tout en haut de la montagne? Non. Non,
mais... Après, ils étaient peut-être là avant le Death Stranding et ils n'ont pas bougé aussi.
Ouais, j'ai du mal à le croire. Vu la gueule des abris, j'ai vraiment du mal à le croire. Après, c'est comme tout, hein. C'est-à-dire, c'est faut qu'il y ait un jeu. Hein. Donc, ouais. Donc il faut bien qu'il y ait des mecs aux quatre coins, de la zone pour justement
justifier les allers-retours.
Voilà. Si tout le monde habitait dans le même village, effectivement, ça serait vite réglé. Mais au-delà de ça, tu te dis, puis alors l'autre en plus, désolé de spoiler, mais là c'est pas un spoil violent, mais ouais, ma femme elle est enceinte, faut amener un scanner en haut de la montagne. Tu fais mais non. Ta femme elle est enceinte, tu vas pas là-haut, quoi, déjà à la base. Descends, quoi. Ah, je suis enceinte. Ok, on redescend tout de suite. Voilà, on attend pas le 9e mois, quoi. Et en plus de ça, cette quête, elle m'a frustré pour le coup, parce que c'est vraiment va déjà lui amener des trucs, tu lui amènes.
Et ça s'en prend aux 4 étapes.
Et, je peux vous lier au réseau? Non. Ok. Faudrait que tu retournes. Maintenant, faudrait que tu amènes le résultat que tu viens de m'amener au médecin. Tu l'amènes. Ah bah en fait, faut leur livrer un scanner. Mais les gars, sérieusement? On est au troisième tour. Je les aurais reliés au réseau tout de suite, ça serait réglé le problème, quoi. Alors après, effectivement, j'ai là pour le coup, c'est un biais cognitif. Enfin, je suis un peu dans la vanne, mais il y a aussi ce que je viens de faire là. Pour le coup, c'est aussi un biais cognitif qu'on fait tous plus ou moins vis-à-vis des œuvres de fiction. C'est-à-dire qu'on est en train de quand on voit un film, une série ou pour le coup un jeu vidéo. Et qu'on voit des trucs aberrants, on se dit beaucoup, mais dans la vraie vie, jamais c'est comme ça, quoi. Et en fin de compte, quand tu regardes bien, tu te dis que, en fait, quand tu vois des trucs dans la vraie vie, tu te dis, mais ça serait dans un film, j'y croirais pas, quoi. Et typiquement, et pour rester sur un sujet d'actualité, moi, personnellement, j'habite à Paris, quand je vois ce qui se passe dans le métro avec les masques du confinement, je me dis, mais ça, ils l'auraient mis dans un film, j'y aurais pas cru. Ils le mettaient dans l'idiocratie, je me dis, non, là, ça va trop loin.
Ouais, c'est ça.
Donc ouais, c'était ma petite rage personnelle contre les gens qui habitent dans les montagnes.
Oui, ou l'autre avec sa pizza.
Bah la pizza encore, il fait pas trop chier, c'est-à-dire que c'est pas une quête obligatoire.
Je suis d'accord. Mais tu en livres une, c'est sympa. Et la pizza, faut pas qu'il y ait l'appui, faut qu'elle soit à
Ouais, mais
l'horizontale.
ça reste assez drôle, tu vois. C'est, moi, je
Elle
trouve
soit
que c'est
livrée en moins d'une
le jeu,
demi-heure, tu vois, comme dans la vraie vie.
ça te force, en fait, à, bah, comme tu le disais, je sais plus qui le disait tout à l'heure, c'était Wolfen ou toi, peut-être, mais voilà, il faut. Alors que d'habitude, alors que peut-être que tu as pris le pli depuis 10 heures de jeu à appuyer sur la bonne touche pour que tout soit rangé comme il faut tout seul, là, si tu fais ça, ta pizza, elle est pliée, quoi.
Oui, c'est ça.
La verticale, donc tu es obligé pour une fois de le faire vraiment à la main, et quitte à acheter des. À faire fabriquer des. Comment dire,
Des chariots, là, les chariots.
Non, pas des chariots, quitte à. Toi, quitte à te faire un pack de grenades dont tu n'as pas besoin en plus, juste pour
Ah
que ça
oui.
soit juste horizontal et pas
Voilà,
vertical. Parce que si tu
complètement. Ouais.
transportes que la pizza, en fait, la pizza, elle est forcément verticale, en fait.
Et puis
Donc,
en plus, tu le sais que dans la vraie vie, si le mec t'amène ta pizza verticalement, t'es pas
tu le
content.
défonces.
Tu le
Tu le
défonces, ouais.
défonces.
Donc du coup, tu dis, donc le jeu, il est finalement, tu vois, tu dis, bon, bah ok, le mec, je vais amener sa pizza horizontale en moins de 30.
Ouais, autant effectivement sur l'énoncé de départ, quand tu vois la quête arriver en mode ouais, livre-moi une pizza, tu dis mais non, non
Non.
quoi. Puis au final, ouais, ça reste assez, enfin, en termes de gameplay, je trouvais que, alors qu'effectivement, il n'y a rien qui renouvelle le gameplay, puisque encore une fois, c'est d'aller à un point A, à un point B avec une charge sur le dos,
C'est
ça,
ça.
je trouvais que ça renouvelait un petit peu. Les quêtes chronométrées aussi, même si au final, les chronomètres, tu les exploses. Et je pense que c'est aussi pour ça que alors là, on s'éloigne un petit peu de la thématique, enfin, du sujet des thématiques, mais je pense que c'est aussi pour ça que le jeu marche aussi. C'est qu'il n'y a aucune livraison qui dure réellement plus de 6-7 minutes, quoi. Peut-être dans les modes de jeu plus difficiles, peut-être si je le fais en ultra hard, pour le coup, si, peut-être que, sûrement que si, parce que les ennemis, je ne vais pas m'en débarrasser aussi facilement, parce que je ne vais pas pouvoir
Ça sera pas
rusher en plein milieu. Mais la plupart des quêtes de livraison, elles sont assez courtes au final. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que le jeu n'est pas ennuyant malgré le côté répétitif, quoi.
J'avais pas de chronomètre en main. Alors peut-être, ouais, c'est vrai qu'il y a la plupart des. Tu le dis, la plupart des livraisons sont assez rapides, alors peut-être un peu moins sur la fin, genre quand on commence un peu à arriver dans les paysages, dans les zones montagneuses, avec la neige, tout ça. Ou certaines, par contre, m'ont paru, parler bien sûr, par exemple, du chapitre 8, le
Ouais.
famoso chapitre 8 avec Mama, où vraiment là j'ai eu des quêtes, enfin des livraisons qui étaient longues, tout simplement, qui m'ont paru très longues. Et voilà, c'est peut-être un peu moins intéressant.
Le moment vraiment agréable, c'est quand tu dois aller voir là. Alors j'ai été la voir qu'une fois parce qu'effectivement j'ai un peu rushé le jeu pour être en mesure d'en parler ce soir. Puisqu'au moment où on enregistre la petite secret de fabrication, au moment où on enregistre, en fait, le jeu n'est pas sorti depuis une semaine, donc il a fallu finir le jeu pour être présent au rendez-vous. Mais donc effectivement, alors je sais plus comment, Spirit, je crois que c'est ça le nom du PNJ. C'est-à-dire celle qui fait un peu d'ésotérisme, qui est encore plus haut que l'alpiniste.
Ah oui, il est trop loin.
T'es pris dans une tempête de neige pour aller chez elle, en plus de ça, tu passes par un camp d'échoués. Là, je me suis dit, là, je passe un bon moment. Ouais. Là, je passe vraiment un bon moment. Quoi. Encore, je me suis heureux que le jeu est sorti en 2020, enfin 2019 et 2020, et pas en 2000, et pas en 2060, parce que je me dis que peut-être que dans 40 ans, nos consoles, si tant est qu'on appelle ça encore comme ça, nos consoles de jeu, enfin nos supports de jeu, vont peut-être pouvoir nous faire ressentir en temps réel les températures, les odeurs, les je ne sais quoi. Et non, là, cette quête-là, dans cette thématique, non, c'est pas possible. Donc démerdez-vous, laisse la caisse là, tu te débrouilles, quoi. Clairement, on va appeler les porteurs PNJ là qu'on croise de temps en temps, qui servent à rien, tu vois,
Ah
pour
oui,
donner un peu de
complètement.
décorum.
Les seuls qu'on croise,
Ceux
les
qu'on
pauvres
croise.
petits pèlerins, là. Ça va rien. Bonjour Sam, bonjour. Ouais, super, merci.
Ouais, ils donnent des
Voilà.
likes.
Il
Tiens,
donne des likes, oui,
d'ailleurs,
c'est ça.
classique, effectivement, dont on n'a pas parlé, mais je trouvais que ça faisait un peu Black Mirror ou système chinois, là, le coup de la montée de niveau, entre guillemets, via les likes et les notes de livraison. Donc, il faut absolument avoir des likes sur tes routes, sur tes panneaux, sur tes machins, pour monter. Donc là, il y a aussi je trouvais qu'il y avait une
Ah,
critique
pareil.
pas très explicite, mais elle était présente quand même du mécanisme des réseaux sociaux, en fait, quoi.
Bah, tout à fait, je crois que c'est, j'en parle même dans mon test, hein, pas forcément dans le dossier,
Mais qui
mais
se fait
c'est
ça.
normal, normal. Et c'est voilà, aujourd'hui, le moindre post sur un réseau social, on le poste pourquoi? On le poste pour juste avoir des likes et des commentaires, quoi. Et donc là, bah, c'est un jeu qui nous donne la possibilité d'obtenir de ces fameux likes. Et donc du coup, la question qu'on se pose, c'est du coup, est-ce que quand on construit une route ou un abri ou une tyrolienne ou peu importe ce que c'est, C'est pour avoir des likes ou pour vraiment aider nos prochains, tu vois.
C'est exactement ce que j'allais dire, c'est ouf. Mais ouais, c'est vrai que c'est. Ouais, je pense. Ouais. Que...
Et ça pose cette question, du coup. C'est
vraiment intéressant.
Ouais. Et c'est quoi? C'est pour nous ou pour l'autre qu'on le fait finalement?
Ouais, et mais je trouve qu'ils n'ont pas. Tu vois, c'est trop implicite. Typiquement, je pense que cet aspect-là. Bon, allez, je vais pas être méchant avec l'humanité. On va essayer d'être un peu optimiste pour une fois. Je pense qu'on a peut-être, on est peut-être 10% à le comprendre. Encore, il faudrait interroger les développeurs pour savoir si c'était vraiment ça le message sous-jacent. Mais en tous les cas, nous, on se pose la question et peut-être qu'on est 10% des joueurs. Peut-être que 10% des joueurs se sont posés la question. Est-ce que c'est une critique? Est-ce que ça l'est pas? Du coup, si c'en est une, effectivement, tout ce que ça sous-entend derrière. Maintenant, je pense que la majorité des joueurs se sont pas posé la question.
Non.
Et je pense qu'il y a une autre petite partie qui, elle, par exemple, par contre, effectivement, s'est dit, il faut que j'ai du like, il faut que j'ai du like, il faut que j'ai du like, parce qu'ils sont intoxiqués là-dessus, sur le même concept, sur les réseaux sociaux, et que du coup ils vont reporter, en fait, le mécanisme sur le jeu. Après, personnellement, je pense avoir croisé certaines constructions qui étaient là pour faire du like.
Ah oui,
d'accord.
Alors, clairement. Clairement, des ponts, tu sais pas ce qu'ils foutent là. Alors, soit la personne s'est dit, bon, j'ai pas construit un pont depuis le début du jeu. Il y a un succès, un haut fait là pour construire un bâtiment de chaque. Je sais pas où le foutre, je vais le mettre là quoi. Il y a peut-être ça. Ou peut-être que la personne s'est dit aussi, bah tiens, maintenant je peux construire ça comme bâtiment. Voyons voir ce que ça donne. Moi j'ai vu des tyroliennes raccordées à rien, ça m'a rendu fou. Hein. Ouais, t'es là dans la montée, oh, une tyrolienne là-bas, mais elle m'emmène, elle va m'emmener trop loin. C'est magnifique. Merci beaucoup. J'aime ce multijoueur différé, asynchrone et tout. T'arrives sur la tyrolienne, non, la tyrolienne, elle est reliée à rien, merci d'être venu, quoi.
Ouais, je pense que ça, tu le vois encore plus, pas forcément sur les constructions, mais sur le système de marqueurs, parce que tu peux poser des espèces de... Ouais,
les petites balises, les petites balises.
Et la plupart que j'ai croisées, tu vas pas me faire croire que les mecs, ils les ont posées pour vraiment m'encourager à tenir bon et à aller plus haut, quoi. La plupart que tu croises, déjà, c'est devant les hubs, donc c'est vraiment, déjà, c'est là, c'est pour choper du like. Mais après, oui, c'est vrai que parce que tu disais que au final, oui, là, très peu de gens se sont posés, sont interrogés et ont essayé de réfléchir par rapport à ça. Mais bon, ça, après, je pense que c'est très peu de gens, de manière générale, réfléchissent le jeu vidéo.
Une petite parenthèse donc sur les panneaux. Une des critiques que j'avais émises dans le dernier Metal Gear, c'était que je sais pas si vous l'avez tous fait, mais ceux qui l'ont fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais en gros, chaque chapitre débutait par un trailer. Je trouvais ça un peu étrange. Et en fait, du coup, la plupart du temps, le trailer du chapitre que t'allais commencer, bah du coup, spoilait le trailer. Donc, Metal Gear, pour moi, c'est un jeu qui se spoilait tout seul, comme un grand. Et du coup, les panneaux qui peuvent être certes utiles, je trouvais que ça pouvait aussi spoiler le jeu. Alors, l'intelligence du studio Kojima, ça a été de limiter le nombre de joueurs dans ta session, dans ton hub, enfin, je sais pas comment appeler ça. Mais en gros, tu vois pas les panneaux de tous les joueurs de Death Stranding. Tu vois seulement des joueurs un nombre limité. Donc déjà, la limitation, je trouvais ça intéressant. De manière à pas être pollué, puis de manière à ce que les routes se construisent pas d'un claquement de doigts du jour au lendemain, quoi. Et puis la deuxième intelligence, ça a été surtout de permettre de voir les constructions et les panneaux seulement dans les zones que tu avais déjà raccordées. Donc ça, c'était plutôt cool. Mais malgré ça, il y a quand même des phases où tu regardes dessus, tu fais bon, bah là, ça va être la merde. Là, il y a un truc à aller chercher. Ok, voilà. Donc je trouvais que le système est très très sympathique. Mais je peux pas m'empêcher de penser que par moment, tu t'es spoilé enfin, le jeu se spoile lui-même, en fait. Et te dit, attention, là, il y a un truc, là, il y a un truc, là, il y a un truc. Du coup, il y a une petite découverte en moins, entre guillemets, quoi. Mais après, là, pour le coup, pour être honnête, je pinaille.
Ouais, bon, moi, je suis pas spécialement d'accord avec ça. Moi, ce que je regrette surtout, c'est que la question que je me pensais poser, du coup, avec mes potes qui ont fait le jeu en même temps, c'est est-ce que ce sont vraiment des joueurs, tu vois, des vrais joueurs derrière toutes ces constructions, tous ces panneaux? Parce que moi j'ai dû jouer 50 heures, je crois, ou 60 peut-être, et j'ai pas croisé un seul truc de mes amis PlayStation. Et j'en ai plus de 100 des amis PlayStation. Alors ils sont peut-être pas tous actifs, ils n'ont pas tous joué à Death Stranding, c'est sûr. Mais je trouve ça dommage que du coup on puisse pas voir les constructions de nos potes. Ou en tout cas de notre zone, tu vois. Alors je sais pas comment ça se passe sur PC aujourd'hui.
Pour le coup, je peux pas trop en parler non plus, parce que sur Steam, en fait, j'ai pas d'amis qui joue à Death Stranding. Enfin, j'en ai un, mais on s'est ajouté aujourd'hui. Voilà, c'est un ami, en fait, que j'ai via Discord, voilà, pour vous parler un peu de ma vie, 30 secondes. Donc, j'ai vu, effectivement, sur un Discord sur lequel je suis, un ami qui joue à Death Stranding. Je lui ai dit, tiens, écoute, on n'est pas amis sur Steam. donne-moi ton code, comme ça, peut-être qu'on verra nos constructions. Donc, j'ai pas pu faire le test, puisque toutes les constructions. Je n'ai personne qui joue à Death Stranding, hormis lui, mais j'ai pas relancé le jeu depuis. Par contre, en m'attardant un petit peu sur les avatars des gens, sur machin et tout, en tous les cas sur PC, ouais, on voit vraiment l'ID des gens. Pour moi, c'est des gens réels. Après, je suis pas persuadé que les gens. Après, je sais qu'il y avait des panneaux, surtout vers le paléontologue. Là, il y a des panneaux qui sont posés par les PNJ pour t'aider un peu plus. Alors, c'est des panneaux qui sont peut-être pas présents dans les modes de difficulté les plus forts. Mais en tous les cas, en normal, je sais que quand tu vas voir le paléontologue, tu as un panneau qui est hors zone du réseau et qui a été posé par le paléontologue. T'as même le premier que j'ai vu, j'ai même l'impression qu'il y avait un échoué à côté. En fait, c'était l'avatar, l'hologramme, entre guillemets, mal fait du paléontologue. Et en fait, de loin, tu as l'impression que c'est un échoué, quoi. Donc, effectivement, là, tu le savais. Et toutes les constructions, ouais, pour moi, clairement, c'est des joueurs. Mais par contre, c'est des joueurs qui viennent aux quatre coins du monde parce que j'avais des joueurs japonais dans les gens qui faisaient des constructions et qui likaient les trucs que j'avais mis. Et dont je pouvais moi-même liker les trucs. Mais après, ouais, quand je vois les pseudos des joueurs occidentaux, on va dire, les avatars, ouais, pour moi, c'est des joueurs réels.
Même à la fin du jeu, il me semble, après les génériques, t'as un générique aussi pour te dire avec quel joueur t'as coopéré, si je me dis pas de conneries.
Je me suis tapé tout le générique. Mais en tout cas, t'as dans le menu, dans le hub, t'as un truc comme ça.
Ah, ok,
les joueurs, bah, croisé, les joueurs qui t'ont liké, les joueurs que t'as liké, et même les joueurs qui t'ont aidé si jamais tu fais une demande de livraison express.
J'ai pas de PlayStation, mais typiquement, ce qu'il faudrait que tu regardes, justement, dans les contraintes de liens qu'on te propose, si tu te retrouves tes amis.
Moi, j'ai trouvé aucun de mes amis, et je trouvais ça un peu regrettable. Justement, en plus, on aurait rigolé, on aurait pu se faire des blagues, justement, et dire bah là, vas-y, fonce, alors que là, il y a un fossé, par exemple. Tu vois, on sait pas, des trucs comme ça. Mais à l'inverse, s'entraider vraiment. Moi, je sais que quand j'ai débloqué les tyroliennes, j'en ai mis pas mal à des points assez stratégiques. Et finalement, pour être passé quelques fois dessus, bah, j'avais eu zéro like et moi, j'étais très content de mes tyroliennes, hein. Franchement, ça m'a fait gagner un temps fou. Mais je trouve ça un peu dommage, ouais, de pas avoir poussé le concept un peu plus loin et de pouvoir au moins afficher les constructions ou les panneaux que de ses amis. Et vraiment d'interagir avec une communauté ou en tout cas avec des gens qui sont pas très loin ou avec qui on peut interagir vraiment, quoi. Tu vois.
Effectivement, c'est un peu dommage là-dessus si ça se confirme. Encore une fois, moi j'ai pas pu faire le test puisque mes contacts n'ont pas joué à Death Stranding. Maintenant, là où moi j'ai été agréablement surpris, c'est de voir que les gens jouaient le jeu, quoi. Que les gens alors tous les panneaux sont pas utiles, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont posé des panneaux utiles. Je m'attendais à ce qu'il y ait un troll ou deux qui s'amuse à tout démonter. Bah, s'il l'a fait, ça a été remonté derrière. Tu peux démonter les ponts des autres et les constructions des autres. Pareil, j'ai pas vu de troll qui s'est amusé à tout détruire. Les constructions sont en général utiles, même s'il y en a une ou deux, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'elle fout là, quoi. Mais ça reste une ou deux sur l'ensemble du jeu, et sur l'ensemble, parce que quand même, le jeu est assez vaste en termes de superficie totale. Autant il y a des trucs où tu te poses la question de pourquoi il l'a mis là. Autant j'ai pas vu de malveillance des joueurs, quoi. Je trouvais que les joueurs allaient vraiment dans l'esprit de relier, de s'entraider à distance, de manière asynchrone et ainsi de suite, quoi.
Bah on n'est pas dans un délire un peu à la Dark Souls, parce que je pense que c'est Dark Souls qui a introduit ce genre de asynchrone. Ou après je suis pas un expert des From Software, mais je sais que du peu que j'ai joué à Dark Souls, il y a des fois il y a des mecs qui se gênaient pas pour te dire bah va là.
Il y a des trésors et tout et tu.
En fait, il y a juste un piège et tu te fais enfoncer.
Et en plus, si les mecs, si ceux qui sont voir, si c'est des gros connards, tu vois, ils mettent un message d'appréciation en disant ouais, c'est un vrai message, tu vois.
Ouais, non, mais c'est ça. Donc non, là, c'est plutôt cool parce que tu ressens vraiment la bienveillance. C'est plutôt agréable.
Okay. Là, c'est plus un jeu où tout le monde construit quelque chose en fin de compte en commun. Dans l'idée.
Ouais, c'était bien sympa. Après, effectivement, à mesure que tu avances dans le jeu. Les constructions t'envoient de moins en moins, peut-être parce que les joueurs sont pas aussi assidus que toi pour le coup, puis parce que peut-être que les joueurs sont comme nous, c'est qu'ils ont compris qu'au final la route elle servait à rien, donc aller tout droit ça marchait aussi bien. Et effectivement, vers le bricoleur et presque jusqu'au ferrailleur, il y a plein de constructions et de routes, et que dans la montagne c'est un peu moins le cas, quoi.
Et après, ce qui était aussi pertinent de la part de Kojima Prod et l'équipe, c'est d'avoir fait en sorte que les constructions soient disponibles qu'après, du coup, avoir activé le réseau chiral. Donc, ce qui fait que dans un premier temps, quand même, tu galères.
Ouais.
T'es pas aidé par les constructions des autres.
Et puis puis je pense aux auditeurs qui n'auraient pas encore joué au jeu et qui se poseraient éventuellement la question, les constructions, elles se détériorent au fil du temps.
Aussi, oui, c'est vrai.
Du coup, même une fois le réseau branché, ben vous allez, si vous arrivez dans le jeu dans 6 mois, vous n'allez pas avoir 100% des autoroutes de construites, quoi. Parce qu'on aura arrêté de les entretenir et que du coup, elles vont disparaître.
C'est ça, ça s'autorégule, quoi, vraiment. Et c'est vrai que c'est un aspect dont j'avais peur quand j'ai commencé à jouer, parce que je me disais, en fait, comment je vais pas profiter du jeu comme les gens en ont profité la première semaine de sortie, parce que bah, tout sera déjà fait et il n'y aura plus rien à faire, quoi. Et au final, bah non, du coup, c'était plutôt appréciable à ce niveau.
Petite dernière touche écolo du jeu où j'ai plutôt bien aimé ça, genre ramasser les colis abandonnés. Je trouve que c'était un petit truc sympathique qui joue sur la corde sensible un peu de bon, bah.
Putain, ouais, tu ramasses les colis des autres qui ont échoué.
Ramasses les colis des autres, ouais, et finalement, on est tous concernés, finalement, parce que bah, la nature, elle appartient à tout le monde. Quand on marche dans un standing, on admire le paysage, ouais, c'est beau. Et... Alors, certes, il y a beaucoup de cailloux, mais c'est quand même très vert et très nature. Et puis, on se retrouve avec des vieux colis tout rouillés, là. Bah. En général, si on est pris dans le jeu, bah, on les ramasse et on les ramène au premier abri le plus proche, quoi. Et j'ai trouvé ça pas mal. Ce petit clin d'œil à l'écologie actuelle, de se dire tout le monde est responsable, finalement.
C'est beau. Écoutez, je pense qu'on a plutôt fait le tour de Death Stranding. Je pense qu'on a abordé pas mal de sujets. C'était un peu, voilà, on a un peu digressé. Mais est-ce que c'est pas ça finalement qui est agréable? Je sais pas. Vous pourrez nous faire part de votre avis. Merci en tout cas à vous trois d'avoir parlé de Death Stranding. J'espère que vous avez passé un bon moment à enregistrer ce podcast.
Oui, ce fut un plaisir.
Et surtout, bah, merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous dis à très bientôt, bah, déjà sur Trail Game. Allez faire un tour sur le site travelgame.fr pour prendre voilà maximum de plaisir à nous lire, à lire nos actus, nos tests, nos dossiers, plein de choses à retrouver sur Travelgame. Et n'hésitez pas bien sûr à nous suivre sur nos réseaux sociaux. On a du Facebook, du Twitter, Instagram, un compte curateur sur Steam. On n'a pas de Google Plus. On s'y était lancé, mais on a arrêté parce qu'il faut pas déconner. Merci à vous de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Parlons JV, le podcast de Travelgame. Bye tout le monde.
Bye. Salut.
Au revoir.